ou bien rebonjour, 11h TU, 13h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, malgré les tentatives diplomatiques, l'Ukraine continue de subir des attaques russes. Près de 280 drones ont visé la nuit dernière de nombreuses régions, dont celle de la capitale Kiev, où une femme a été tuée. Le nouveau pape Léon XIV a célébré ce matin la messe d'inauguration de son pontificat. Évoquant l'Ukraine martyrisée, il recevra dans la journée son président Volodymyr Zelensky. Également dans l'actualité, des élections présidentielles en Roumanie et en Pologne, avec à chaque fois un duel entre libéraux et populistes. Et en France, qui pour présider les Républicains, le parti de droite. Les adhérents départagent aujourd'hui Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Ajoutons à ces titres cette dernière minute en provenance de Jérusalem. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme que son pays est ouvert à un accord avec le Hamas, accord qui inclurait la fin des combats en référence aux opérations du moment d'Israël dans la bande de Gaza. On y revient plus longuement dans le journal de 14h avec sur place Michel Paul. Le résultat s'annonce serré en Roumanie où se tient ce dimanche le second tour de la présidentielle. Face à face, le nationaliste Georges Simion et le maire centriste de Bucarest, Nicoșor Dan. Bataille indécise dans ce pays très polarisé, voisin de l'Ukraine. Elle intervient 5 mois après la spectaculaire annulation d'un scrutin entaché de soupçons d'ingérence russe. Muriel Paradon, vous êtes en direct de Bucarest. Y a-t-il, Muriel, déjà de premières indications sur le taux de participation ?
Oui, la participation s'élève à un peu plus de 35% pour l'instant. Elle est plus importante qu'au premier tour à la même heure. Et c'est primordial parce qu'il y avait eu une forte abstention au premier tour et la mobilisation pourrait faire la différence au second tour car la bataille, en effet, s'annonce serrée entre les deux candidats. Il y avait effectivement pas mal de monde ce matin dans le bureau de vote dans lequel nous nous sommes rendus dans le centre de Bucarest. C'est une ville plutôt acquise à Nicoșor Dan. Il est maire de la capitale roumaine. Ce candidat qui s'est présenté en indépendant a fait campagne pour une Roumanie honnête, débarrassée de la corruption. C'est aussi un pro-européen qui souhaite par exemple continuer à soutenir l'Ukraine. Son adversaire, l'ultranationaliste Georges Simion, envisage au contraire de stopper les aides à son voisin ukrainien, ce qui inquiète beaucoup de pays européens. Avec son programme populiste Les Roumains d'abord, il séduit davantage en dehors des grandes villes. Ce sont donc deux projets diamétralement opposés, de style aussi. Nicoșor Dan est posé, plutôt discret. Georges Simion multiplie les clous d'éclat à la Donald Trump. Cette élection, en tout cas, est très suivie en Roumanie, mais aussi par ses voisins européens. Premier résultat sorti des urnes à 21h, heure locale, 18h, en temps universel.
Muriel Paradon à Bucarest en direct pour RFI. On vote aussi en Pologne ce dimanche, mais cette fois au premier tour de la présidentielle. Tout devrait se jouer entre un Européen convaincu, Rafał Trzaskowski, et un nationaliste admirateur de Donald Trump, Karol Nawrocki. Sauf surprise, le second tour se jouera le 1er juin entre ces deux candidats. Les bureaux de vote ferment à 19h TU. Un sondage à la sortie des urnes doit être publié aussitôt après. Les électeurs ont commencé ce matin à Varsovie, où notre correspondant Adrien Sarla a tendu son micro à quelques-uns d'entre eux.
Pour nous, les présidentielles, c'est un vote sur la façon dont on veut que les différentes institutions de l'État collaborent, plutôt que pour une vision politique, car elle résultera de la façon dont le président travaillera avec ou contre le gouvernement.
On a besoin d'un président qui agit pour le bien de la Pologne en accord avec le gouvernement, pour ne pas se retrouver dans une situation où le gouvernement va dans un sens et le président dans l'autre.
Au premier tour aujourd'hui, je vote Mensen, mais pour le second tour, si je dois choisir entre Trzaskowski et Nawrocki, ce sera un choix difficile, comme choisir entre la peste et le choléra.
Ce sont des élections très importantes qui vont montrer dans quelle direction se dirige la Pologne. Il faut arrêter de se créer des ennemis là où on n'en a pas. L'Union européenne n'est pas notre ennemi. Les États-Unis ne sont pas la solution à tout.
J'espère que ces élections réussiront à créer des ponts entre les Polonais, car il y a une grande polarisation et j'espère que ça va changer.
Reportage à Varsovie d'Adrien Sarla. Au Portugal, ce sont des élections législatives ce dimanche. La droite modérée au pouvoir du Premier ministre Luis Montenegro par favori. Elle est créditée de 34% des intentions de vote contre 26% au Parti Socialiste. Verdict du dernier sondage au Portugal. Sur toutes ces élections, aujourd'hui en Europe, je vous invite à lire le dossier préparé par la rédaction Internet. Le pape Léon XIV vient de célébrer la messe d'inauguration de son pontificat. C'était place Saint-Pierre de Rome devant des dizaines de milliers de fidèles et quelques 200 délégations officielles venues du monde entier. Le pape a évoqué l'Ukraine martyrisée. Il recevra dans la journée son président Volodymyr Zelensky. Sur place, l'Ukraine a été encore la cible la nuit dernière d'une attaque massive de drones russes. Précisément, selon l'armée de l'air ukrainienne, 273 drones visant de nombreuses régions, dont celle de la capitale Kiev, où une femme a été tuée. Commentaire de la vice-première ministre ukrainienne, l'objectif de la Russie est clair, continuer à massacrer des civils. Dans l'actualité économique maintenant, cette question qui agite le débat public au Canada, Washington et Ottawa sont-ils toujours en guerre commerciale? Le nouveau Premier ministre Mark Carney a été élu le mois dernier sur une ligne dure face à Donald Trump, mais une étude d'un cabinet privé publiée cette semaine accrédite une autre version. Le gouvernement canadien serait discrètement revenu sur les mesures de représailles prises suite à l'imposition par Washington de nouveaux droits de douane. Nathanaël Vitran, bonjour.
Bonjour.
Le ministre canadien des Finances a démenti.
Oui, il faut dire que les décisions brutales et les revirements soudains de Donald Trump ne rendent pas la situation toujours très lisible. Reprenons. En février, Donald Trump annonce une taxe de 25% sur toutes les importations venues du Mexique et du Canada, avant, quelques semaines plus tard, d'exempter finalement les produits couverts par un accord de libre-échange qu'il avait lui-même négocié avec ces deux pays lors de son premier mandat. Cette surtaxe ne s'applique donc que sur un nombre limité de produits, mais elle touche tout de même durement le secteur automobile canadien notamment. Initialement, Ottawa avait promis de répondre avec des mesures de représailles dollar pour dollar, mais là aussi, une fois l'élection passée, le gouvernement a mis de l'eau dans son vin. Rapidement, des exemptions sont accordées pour des produits américains indispensables à certaines industries dans les domaines de la santé, de la sécurité nationale, à tel point que le cabinet Oxford Economics estimait en début de semaine qu'il ne restait quasiment rien des mesures de représailles annoncées en mars. Sur X, le ministre des Finances dément fermement et assure que 70% des surtaxes annoncées sont toujours en place. Si tout ça ne vous semble pas très clair, dites-vous que pour les entreprises concernées non plus, et ça, c'est plus inquiétant.
Nathanaël Vitran du service économie de la rédaction, merci à vous. En France, c'est le jour J chez les Républicains, le parti de droite appelé à désigner son nouveau chef. Les adhérents, ils sont plus de 120 000, doivent départager Bruno Retailleau qui par favori et Laurent Wauquiez. Ils ont jusqu'à 18h pour voter. Le résultat doit être connu dans la foulée. Et maintenant, l'actualité du cinéma. Vous le savez, actuellement, tout se passe au Festival de Cannes. Parmi les films en compétition aujourd'hui, Die My Love de la cinéaste britannique Lynn Ramsey. Ce film a laissé les festivaliers plutôt circonspects, malgré la présence de deux stars, Robert Pattinson et Jennifer Lawrence. Ils incarnent un jeune couple de parents au bord du chaos. Isabelle Chenu, vous êtes en direct de Cannes. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Dans son film, Lynn Ramsey adapte un roman argentin sur la dépression postpartum.
Oui, elle donne à Jennifer Lawrence le rôle phare d'une jeune mère pour le moins désemparée. Révélée à 20 ans dans les sagas Hunger Games ou X-Men, l'actrice américaine aime aussi faire des incursions dans le cinéma d'auteur. Dans Die My Love, elle se donne sans compter, sombrant dans la folie sous les yeux désemparés de son conjoint, incarné par une autre superstar, le Britannique Robert Pattinson.
Elle est poursuivie par l'idée qu'elle va disparaître. Moi, j'étais enceinte de 4 mois et demi quand on a tourné, donc point de vue hormones, ça allait plutôt bien, je me sentais joyeuse, et c'était la seule façon de me plonger, de m'immerger dans ces émotions.
Habituée de la croisette, la réalisatrice écossaise Lynn Ramsey est de retour pour la 8e fois au festival. Elle y a laissé des souvenirs marquants et a reçu notamment le prix du scénario en 2017. Dans Die My Love, elle met en scène un jeune couple amoureux confronté aux troubles mentaux de la jeune maman. Le film s'inscrit dans une mouvance récente du cinéma qui désacralise la maternité. Jennifer Lawrence livre une prestation intense, mais qui frôle parfois le burlesque.
Merci Isabelle, c'était Isabelle Chenu en direct de Cannes. Enfin, un mot de football, on jouait hier soir l'ultime journée en Ligue 1, le championnat de France. On savait depuis longtemps que le Paris Saint-Germain conserverait son titre. L'équipe type du PSG a fêté ce titre en battant Auxerre au Parc des Princes 3-1. Soirée idéale pour préparer les finales de coupe qui attendent le PSG au mois de mai, surtout la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan le 31 mai. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté. À suivre sur RFI, l'atelier des médias.